Donc, mon père, l'instruction présente-t-elle des nouveautés en ce qui concerne l'enseignement de l'Église sur les questions de bioéthique?
Alors, je répondrai par un oui nuancé, et je m'explique. Par un oui, parce que le document envisage de réfléchir sur les nouvelles questions posées par la science biomédicale. Ces nouvelles questions sont en fait la raison d'être de ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'instruction décrit ces nouveaux problèmes avec grande précision et les confronte à la pensée de l'Église en faisant émerger la norme qui s'impose en chaque cas. Un exemple, la question du clonage hybride. Il consiste à utiliser des ovocytes d'animaux pour reprogrammer des noyaux de cellules somatiques humaines dans le but de prélever des cellules souches embryonnaires sur les embryons produits sans avoir à recourir à l'utilisation d'ovocytes humains. Voilà pour la description du problème. Et le jugement moral, je cite le document au numéro 33, « De tels procédés sont du point de vue éthique une offense à la dignité de l'être humain en raison du mélange des éléments génétiques humains et animaux susceptibles de nuire à l'identité spécifique de l'homme. » Au numéro 33 donc. L'identité spécifique de l'homme, c'est une expression proche d'une autre expression qui revient constamment dans ce document, c'est-à-dire à savoir la reconnaissance de la dignité de la personne à tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Cette donnée n'est pas neuve, voilà pour le nom, la nuance dont je parlais plus haut. Elle est rappelée avec force, en effet, dans l'instruction d'Unum Vitae de 87. Cependant, il me semble, et on pourrait voir en cela une nouveauté, qu'elle se trouve rationnellement mieux expliquée que dans le document de 87. Et je cite le texte de la nouvelle instruction, au numéro 5. « De fait, la réalité de l'être humain, tout au long de son existence, avant et après sa naissance, ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de la valeur morale, car il possède une pleine qualification anthropologique et éthique. L'embryon humain a donc, dès le commencement, la dignité propre à la personne. » Numéro 5 dans le document. Je viens de parler de la raison, qui est, avec la foi, un des pilastres centraux de tout le document. Il peut sembler étrange d'entendre mentionner la foi dans un document où il est question du jugement éthique apporté sur les résultats de la science biomédicale. Mais ce n'est qu'une impression, car l'instruction montre très bien, et cela représente, à mon sens, une nouveauté dans un document de ce genre, comment la foi, sans nier la consistance de la raison et donc en la respectant pleinement, la purifie et l'élève.
Quels sont les éléments principaux de ce document?
Parmi les éléments essentiels de ce document, principaux, comme vous dites, il y a certainement la dignité personnelle attribuée à l'être humain de sa conception à sa mort naturelle. Cette dignité est renforcée et, si vous voulez, consolidée par le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu et appelé à une destinée éternelle. Entendons appelé à recevoir le don de l'adoption filiale, comme dit saint Paul, à participer à la nature divine, comme dit saint Pierre, filiation et participation qui donnent accès à l'intimité du Dieu trinitaire. Intrinsèquement relié à cette donnée importante, il y a le lieu d'émergence de l'embryon, qui ne peut être que l'union des époux dans le mariage, union qui est, comme dit le document, le reflet dans le monde du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit-Saint. C'est à la lumière de ces deux données, considérées respectivement tour à tour du point de vue de la raison et de la foi, que sont envisagés d'abord les problèmes connexes à la procréation, c'est la deuxième partie du document, et ensuite les nouvelles propositions thérapeutiques comportant la manipulation de l'embryon ou du patrimoine génétique humain, c'est la troisième partie du document. Les problèmes en cause, j'en cite quelques-uns, comme la congélation des embryons, le diagnostic pré-implantatoire, le clonage humain, l'utilisation thérapeutique des cellules de souche, etc., sont décrits avec simplicité et exactitude pour ensuite être l'objet d'un discernement éthique à l'aide des principes déjà signalés, savoir le respect inconditionnel dû à tout être humain, considéré comme jouissant de la dignité personnelle, et la sauvegarde de la spécificité des actes personnels qui transmettent la vie.
Que répondre à ceux qui accusent l'Église de trop souvent s'opposer ?
Si dans ce document l'Église dit souvent non, on pourrait dire qu'elle dit en même temps massivement oui à la vie. Car ces noms, si vous me permettez d'user ces images, sont comme l'envers d'une étoffe précieuse ou comme les balises d'un parcours accidenté. Du reste, si ces noms étaient dits seulement pour ennuyer les gens, leur rendre la vie plus compliquée, et non pour les encourager à protéger la vie et à la promouvoir, l'Église serait gravement infidèle au Christ qui est à l'origine de la vie humaine et qui lui attache une valeur telle qu'il en fait, comme dit Evangelium Vitae, le lieu d'implantation de la vie même de Dieu. « Je suis la vie et je la donne en abondance », dit Jésus lui-même. Ou si vous voulez, dans les mots mêmes du document, au numéro 37, je cite « Derrière chaque nom se reflète dans l'effort de discerner entre le bien et le mal un grand oui à la reconnaissance de la dignité et de la valeur inaltérable de chaque être humain particulier et unique appelé à l'existence. »
L'Église regarde avec confiance la science et la recherche scientifique et respecte son autonomie, mais que demande-t-elle aux scientifiques ?
L'Église demande aux scientifiques de mettre leur science au service de la vie en respectant sans hésiter la dignité de tout être humain, de sa conception à sa mort naturelle et la consistance des actes qui donnent d'exister à cet être humain. À bien regarder les choses en profondeur, cet appel implique des défis considérables, car les solutions à portée de main ne sont pas toujours, dans ce cas, les meilleures en considération du respect dû aux principes à peine signalés. Accepter de s'engager sur la voie la plus difficile, entendons de continuer les recherches avec tout ce que cela implique d'efforts, etc., demande souvent beaucoup d'abnégation de soi et de résistance aux glorioles faciles de ce monde. En ce sens, l'instruction parle de médecins et de chercheurs, je cite, l'expression est très belle, ouverts au dialogue et désireux de parvenir à la vérité. Les modes et les pressions sociales ne sont certainement pas les critères à suivre pour réaliser un idéal si élevé.
L'instruction a été approuvée par le pape et appartient à son magistère ordinaire. Que comporte-t-il ?
Il comporte, comme dit le document, un assentiment religieux de l'esprit des croyants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans la ligne de la Constitution Concilium Gentium, l'instruction Donum Veritatis sur la vocation ecclésiale du théologien précise qu'il s'agit en ce cas d'une adhésion, je cite, qui ne peut pas être purement extérieure et disciplinaire, mais qui doit s'insérer, je cite toujours, dans la logique et sous la poussée de l'obéissance de la foi. Qu'il me soit permis, de dire qu'avec cette nouvelle instruction, nous sommes en présence d'un document bien construit, lumineux, je dirais même solaire, et clair dans ses exposés, un document aussi qui donne à la raison tous ses droits, et même plus, par l'évocation de la foi de l'Église dans le Christ, qui justement ne vient pas diminuer la raison, mais comme dit Fides et Ratio, la porter à son plein accomplissement. C'est donc un document qui, une fois lu dans sa totalité, avec le respect et l'attention qu'il requiert, ne pourra qu'illuminer les croyants, mais les hommes de bonne volonté, engagés dans la cause pour la vie, et ainsi, comme répète inlassablement Benoît XVI, contribuer à la promotion d'une civilisation plus humaine.